Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas, round 49. Le réseau Coral. Le Coral, la mère de toutes les affaires de pédocriminalité en France. Le Coral fut fondé en 77 à Aimargues, un ravissant village du midi de la France, par Claude Cigala, un éducateur spécialisé et cinéaste, bourdonnant autour de la révolution sexuelle française de mai 68. La mode était aux écrivains qui publiaient des romans de leurs amours avec des enfants consentants, soi-disant, dans un langage empoulé, en rime, comme si cela pouvait effacer leurs crimes. Le Coral était un lieu de vie où environ 10 adultes s'occupaient de 5 enfants psychotiques et autistes. Ils appartenaient à un mouvement visant à faire reconnaître le droit à la différence, à la tendresse et à la caresse de vieux cochons en érection sur des enfants. Il s'agissait d'un débat philosophique et de liberté sexuelle d'enfants émotionnellement handicapés que le Coral estimait faire partie d'une thérapie thérapeutique nouvelle. Un garçon de 11 ans fut retrouvé mort, la tête noyée dans un seau de merde, en 1979. Son autopsie démontra qu'il avait été sodomisé. Un jeune majeur fut jugé coupable, mais irresponsable du meurtre et du viol, et enfermé en psychiatrie. 3 ans plus tard, en 82, il était à nouveau au Coral, avec Willy Marceau, un poète et macro d'enfant, âgé de 21 ans. Jean-Claude Krief, également âgé de 21 ans, avait passé son enfance en institution en raison de problèmes de santé de ses parents. Il était rentré en contact avec Marceau après avoir lu son recueil de pédopoésie. Il voulait exposer que l'abus n'était pas un plaisir pour les enfants. Il comprit avoir affaire à un réseau quand Marceau lui demanda de développer des photos pédopornographiques à partir de diapositives. Marceau le dirigea au Coral, où le mot de passe pour entrer était d'avoir lu le livre « Visiblement, je vous aime » de Claude Cigala. Jean-Claude Krief avait gardé un très mauvais souvenir de « l'amour visible » qu'il lui avait été imposé à consentir. Il passa l'épreuve du livre et s'infiltra au Coral en tant qu'éducateur pour les enfants handicapés. Tous les adultes étaient pédophiles et abusaient tranquillement de ces enfants, assurés de leur silence, dit-il. Il vit un défilé de l'international pédosocialiste des ministres en place ou à devenir, les dandys de la révolution sexuelle, des journalistes, des médecins, des psychiatres, des directeurs de services sociaux. Jean-Claude Krief dénonça l'affaire après avoir découvert une valise pleine de photos pédopornographiques. Il illustrait le dossier de la photo d'un administrateur du Coral, un magistrat français déculotté, en train d'abuser de l'infortuné Nordine, âgée de 11 ans, et qui ne parlera jamais s'il est encore en vie. 3 enfants du Coral avaient déclaré aux enquêteurs avoir été sodomisés, et l'un des directeurs, Jean-Noël Bardi, reconnaissait avoir eu cette « activité sexuelle thérapeutique ». Il a été incarcéré avec Cigala et Marceau. Le juge Salzman lança 343 mandats à l'encontre de personnes qui se rendaient au Coral, présuma qu'ils assouvissaient leur perversité sexuelle plutôt que pour observer des enfants handicapés. 343 mandats, hein ? On n'a pas la liste. Parmi eux, les écrivains, donc Gabriel Mazneff et René Scherrer, du cercle de Tony Duvert, un journaliste du magazine pédophile Guépier. On a quelques noms, mais on n'a pas les 343 noms. 3 ans plus tôt, les écrivains avaient témoigné que Jacques Duguay n'avait pas abusé d'enfants, mais qu'il avait eu des relations sexuelles consentantes. Duguay était entre autres poursuivi pour une photo vendue par le réseau Zandvoort au magazine Pissing Lolita, d'un jeune garçon dégoulinant. Donc Pissing Lolita, c'est la petite fille et Lolita qui pissent. Magnifique. François Mitterrand venait d'être élu le premier président socialiste de la République française en 81. Le dossier était politiquement intenable au motif du nombre de personnalités socialistes exposées, dont le ministre de la Culture qu'il venait de désigner. Le capitaine Baril de la gendarmerie avait reçu alors l'instruction de stopper l'enquête du fait du nombre de personnalités, ministres, magistrats, journalistes et même un rédacteur en chef et un chroniqueur du journal Le Monde. Le dossier termina dans le garage du supérieur hiérarchique de l'enquêteur principal, avec celui du réseau Krypten, un réseau satanique pédocriminel allié à la Belgique. Je vous renvoie donc à Samira Wish et à son livre « L'enfant sacrifié à Satan ». Michel Krief, frère de Jean-Claude, sera retrouvé mort. Tous croiront à un meurtre, excepté la police qui conclura un suicide. Un faux procès verbal accolé d'une signature qui ressemblait à celle de Jean-Claude Krief, blâmant l'écrivain Scherrer et le ministre Jack Lang d'abus d'enfants. Piège ou fausse signature, nul ne le sait, mais Krief fut incarcéré pour cela dans la même prison que Cigala. Le témoin principal fut invité à avouer par écrit avoir tout inventé par dépit amoureux pour le fondateur du Coral, avec un style empoulé et une orthographe qui ne lui appartient pas du tout, suite à 3 tentatives de suicide. Le juge Salzmann ferma l'affaire Corral avec quelques condamnations symboliques, malgré les aveux d'un des directeurs et les cris outrés des philosophes qui réclamaient la libération de la pédophilie, se prétendant victime d'un délit d'opinion. Jean-Claude Krief, traité de mythomane, s'empressera d'apporter son dossier à l'avocat Baduel, qui défendait une victime du réseau Krypten, car le même Willy Marceau, inculpé au Corral, était de ceux qui avaient prostitué son client. Krypten était lié par ses membres au réseau Kries, je vous renvoie au podcast consacré à cela, donc le réseau Kries UNICEF, CRIES, implanté donc dans les locaux de l'UNICEF à Bruxelles, et également à Weinstein, donc de réseau Nioul Dutroux. Toutefois, Baduel introduira un dossier pour la défense du Macro qui se disait victime du réseau pour avoir dénoncé ses concurrents. Les enfants passés par ces créneaux sont dans un tel état qu'il n'y a rien à craindre d'eux. On va également, donc, il y a plusieurs autres articles qui apportent d'autres informations, donc il peut y avoir quelques répétitions, mais vous verrez que ça complète. Allons-y. Retour sur l'affaire du Corral. Le 19 février 1997, Jean-Marie Charpier, juge d'instruction à Versailles, et deux fonctionnaires de la DST procèdent à l'ouverture d'un box situé sur la commune de Plaisir, dans les Yvelines, appartenant à Christian Proutot. Un informateur a alerté la DST du fait que le commandant Proutot, ancien créateur de l'unité du GIGN et du GSPR, s'était constitué son stock d'archives personnelles. Tous les dossiers sulfureux de la Mitterrandi, écoute téléphonique de l'Elysée, Rainbow Warrior, Irlandais de Vincennes, Grotte d'Ouvéa, sont rangés dans des cantines en métal et les dossiers sont distribués entre plusieurs juges d'instruction et la DST. Une pochette bleue portant la mention « Corral, balai bleu » figure au butin. Cette simple affaire de mœurs n'a a priori rien de commun avec les grands scandales d'État précités. Rien si ce n'est l'intervention de la cellule antiterroriste de l'Élysée pour étouffer l'affaire et épargner de grands intellectuels et politiques de gauche mis en cause, un an seulement après l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Le Corral était un lieu de vie communautaire en autogestion, comportant une dizaine de membres chargés de l'accueil de jeunes en difficulté, souffrant notamment de maladies psychiatriques et d'autisme. Une petite structure à taille humaine, accueillant quelques mineurs et dirigée par un éducateur spécialisé, Claude Sigala, et son épouse. Le Corral appartenait au réseau collectif Réseau Alternatif, ou CRA, CRA, une mouvance antipsychiatrique dont le but était d'offrir une alternative aux asiles, aux hôpitaux psychiatriques. En octobre 82, des enfants du Corral se rendent chez une voisine et parlent de pratiques inappropriées. S'en suivront une plainte déposée par des parents et l'ouverture d'une information judiciaire confiée au juge Salzmann, débouchant sur l'inculpation des adultes encadrants, Claude Sigala, le médecin psychiatre du Corral, Alain Capello et un éducateur, Jean-Noël Bardi. L'affaire aurait pu rester une tragique mais banale affaire de pédophilie s'il n'y avait eu de nombreuses autres mises en cause dans le milieu politique et intellectuel de la gauche libertaire. Un milieu à l'avant-garde de l'abaissement de la majorité sexuelle, voire de la légalisation des relations pédophiles. Il semble de nos jours parfaitement incongru, ne serait-ce que de poser la question de la dépénalisation de la pédophilie. Dans les années 70, en revanche, cette question fit l'objet d'un véritable militantisme, avec un relais médiatique d'envergure, notamment par les quotidiens Libération et Le Monde. Il faut également replacer ce débat dans le contexte de l'époque, où l'âge de la majorité sexuelle en France n'a quasiment jamais été aussi élevé. En 1832, pour la première loi instaurant une majorité sexuelle, le seuil fut en effet fixé à 11 ans, puis à 13 ans à partir de 1863. Le régime de Vichy, donc Pétain, introduit en 1942 une distinction entre les relations hétérosexuelles et homosexuelles, en fixant le seuil de majorité sexuelle à 21 ans pour les relations homosexuelles. L'ordonnance sur les mineurs de 1945 fixe enfin à 15 ans le seuil de la majorité sexuelle pour les relations hétérosexuelles. En 1974, la majorité sexuelle pour les relations homosexuelles passe à 18 ans, une limite encore trop haute pour certains intellectuels. André Gide a pu en son temps assumer ses relations avec de jeunes adolescents du même sexe, et l'après-68 est une période idéale pour demander le retour à cette permissivité. Le débat autour de l'abaissement de la majorité sexuelle, voire de la suppression pure et simple, va donc s'inscrire dans une demande générale de reconnaissance des sexualités alternatives, dont les relations sexuelles entre adultes et mineurs. Le leitmotiv, jouir sans entrave, est transposé sur l'enfant, que l'on ne saurait priver de sa sexualité au nom d'une morale puritaine. Alors, petite parenthèse, il est tout à fait avéré, effectivement, que les militants pédophiles, donc je parle là de l'ICPE, qui était le lobby pédophile international qui regroupait des associations qui allaient dans ce sens-là, qui était basé aux Pays-Bas, avec une association tête de pont, on va dire, qui avait pignon sur rue, qui s'appelait Martinch. Ces gens-là ont participé aux réunions internationales du lobby, aujourd'hui ce qu'on appelle LGBT. À l'époque, ça s'appelait ILGA, ILGA. donc International for Lesbian and Gay Association. Et en fait, jusqu'à très tard, il y a eu, c'était confondu. Voilà, on voit pareil en Allemagne avec les écolos qui militaient pour la pédophilie dans les années 70, etc. En France, la même chose. Et en fait, tout ça ne s'est décanté que dans la fin des années 90. Vraiment fin des années 90, où il y a un peu de ménage qui est fait. Et nous, avant titre pédo, on pense qu'il y a encore beaucoup de ménage à faire dans cette communauté. Voilà, dans ces milieux. Il n'est pas rare que les pédophiles qui aiment les petits garçons se cachent et se défendent même quand ils sont attaqués en disant que c'est de l'homophobie, etc. Continuons. Le leitmotiv, jouir sans entrave, est transposé sur l'enfant que l'on ne saurait priver de sa sexualité au nom d'une morale puritaine, donc. L'enfant serait ainsi tout à fait apte à donner son consentement à des relations sexuelles avec un adulte, tandis qu'il serait injuste de taxer ce dernier de pervers. Parmi les faits d'armes des journaux, une pétition contre l'incarcération abusive de trois adultes auxquels on reproche des attentats à la pudeur sur mineurs et des tribunes ouvertes à des intellectuels ouvertement pédophiles comme Gabriel Matzneff, auteur de l'ouvrage Les moins de 16 ans, et le philosophe René Scherrer, auteur d'Émile Perverti, Apologie, tous les deux, là encore des relations sexuelles entre adultes et mineurs. Ce milieu se serre les coudes lorsqu'un des deux est rattrapé par la justice, comme en 79 lorsque Jacques Duguay est arrêté pour agression sexuelle et accusé de faire partie d'un réseau pédophile. Désireux de prendre le contre-pied des journaux droitiers comme Minute ou France Soir, Libération publie une tribune de Duguay depuis sa prison dans laquelle il assume pleinement sa perversité, fait l'éloge des rapports incestueux et de la sodomisation, en n'oubliant pas de préciser que l'enfant y prend du plaisir, évidemment. Jacques Duguay est aujourd'hui retourné en prison puisqu'il a été condamné en 2002 à 30 ans de réclusion criminelle par une cour d'assises, une peine exceptionnellement grave dans une affaire de mœurs pour cet ancien militant communiste que beaucoup considèrent comme le plus grand pourvoyeur de photos pédopornographiques en France. En 82, les inévitables René Scherrer et Gabriel Matzneff témoignaient en sa faveur à son procès. Ils vont aussi devoir se défendre dans l'affaire du Corral. Scherrer est inculpé pour incitation de mineurs à la débauche et Matzneff est lui aussi mis en cause. Les deux crient à la manipulation et Matzneff dénonce être dans le collimateur de la justice depuis qu'il a témoigné au procès Duguay. L'ombre du réseau pédophile au service des puissants est relayée principalement par Jean-Claude Krief, ancien éducateur au Corral, et son frère Michel. Après avoir été arrêté pour escroquerie en 82, Krief affirme avoir des révélations à faire sur le Corral. Il prétend que le centre serait un lieu de rencontre pour des personnalités politiques ou intellectuelles au cœur d'un trafic de photos et raconte sa mise en relation avec la petite communauté. Alors qu'il vivait dans un kibboutz en Israël, Jean-Claude Krief serait entré en contact avec Willy Marceau, un poète de 21 ans fréquentant le Corral, après avoir lu sa prose. Willy Marceau publiait notamment dans la revue Backside, dont l'éditeur échouera en prison. Il appartenait également au CRIES, donc le Centre de recherche et d'information sur l'enfance et la sexualité, basé en Belgique, dont l'activisme consistait essentiellement à publier la revue pédophile Espoir. Petite parenthèse, le juge pour enfants de Bobigny, Jean-Pierre Rosenzweig, pour égayer sa retraite, face à toutes ces accusations, il était également impliqué dans cette affaire. Lui, il a fait une association pour aider les enfants hein, dans sa retraite. Et puis, devinez quel titre il a mis pour son association? Espoir. Voilà, c'est l'association Espoir. Mais il n'y a aucun rapport, évidemment. On voit le mal partout. Continuons. Donc, le CRIES, le centre est dissous en 87 après la découverte de photos et de cassettes d'abus d'enfants, dont certaines avaient pour décor les locaux de l'employeur, d'un des membres du réseau, l'antenne UNICEF de Belgique. Au retour en France de Jean-Claude Krief, Willy Marceau serait venu chez lui, puis serait revenu le voir avec un certain Gérard Durand pour lui faire demander de faire développer des photos pédopornographiques. Jean-Claude Krief disposait en effet de son propre laboratoire de développement de photos. Découvrant les photos du Corral et ayant lui-même été abusé durant son enfance, Jean-Claude Krief aurait alors cherché à s'inviter dans le lieu de vie. En décembre 81, après avoir contacté Sigala par le biais de la revue Possible, Krief entre au Corral pour y passer un stage d'éducateur. C'est là qu'il se rend compte que l'ensemble de l'équipe éducative est ouvertement pédophile sans qu'il y ait le moindre tabou chez eux. Et de fait, durant l'enquête, des photos sont saisies dans les locaux de la revue Possible, dirigée par un ami de Claude Sigala, donc des photos pédopornographiques évidemment. L'éducateur Jean-Noël Bardi reconnaît ces méthodes un peu particulières, puisqu'il a eu une relation amoureuse avec un pensionnaire du Corral et des activités sexuelles, précisant que cette liberté sexuelle faisait partie d'une thérapeutique nouvelle. L'enquête démontre également qu'un jeune stagiaire arrêté en 77 pour le viol et le meurtre d'un pensionnaire du choral, Jean-Pierre Lanaise, a pu revenir et séjourner 2 ans plus tard. De quoi normalement attester des propos de Jean-Claude Krief. Mais lui et son frère vont rapidement être mis hors d'état de nuire. Le ministre de la Culture Jacques Lang figure en effet parmi les mis en cause, tout comme le neveu du président Frédéric Mitterrand. François Mitterrand fait intervenir sa garde rapprochée, comme le racontera en 1997 le capitaine Paul Baril, collègue du commandant Proutot. Je cite « Je me rappelle qu'on nous avait alertés pour stopper l'enquête sur le réseau pédophile Choral à cause des personnalités mises en cause. Une note retrouvée dans le dossier du Christian Proutot atteste bien du suivi de Maître Vergès, avocat de Jean-Claude Krief. Septembre 82. Conformément à vos instructions, j'ai fait effectuer les recherches destinées à vérifier les informations qui vous avaient été données sur l'avocat. Les marchés traités le sont effectivement par ce monsieur, et comme vous le supposiez, le règlement doit se faire incessamment. Je précise effectivement, nous restons en contact sur cette affaire, et si elle doit se dérouler comme prévu, il y a de fortes chances que nous puissions aboutir. Sauf instruction nouvelle de votre part, nous poursuivons donc cette affaire jusqu'au bout. Le chef d'escadron Proutot. » Fin de citation. Les choses sont claires. Juste une petite parenthèse sur l'affaire Duguay avant de repartir sur le choral. Je vous enjoins de regarder un article donc, où on voit bien la duplicité de ce genre d'argumentaire, c'est-à-dire pour les médias, quand on parle en on va dire, de manière publique. Oui, on est amoureux des enfants, tout ça c'est de l'idylle, mais les enfants adorent ça, on est des gens, voilà, on se rend pas compte, blabli, blablou, mais en fait, y a rien de mal, etc. Et puis Duguay, mais comme c'est le cas pour beaucoup d'autres gens, il écrit une lettre à un Américain où il dit clairement « J'adore souiller les enfants, j'adore éjaculer blabla dans les petites filles de 4 ans que cet ami de tel pavillon me laisse tous les week-ends, c'est génial. » C'est des psychopathes. C'est vraiment juste un masque. Voilà. Et cette ligne de défense est récurrente. Voilà. Est vraiment récurrente. Une soi-disant immaturité affective. Alors, je dis pas que ça n'existe pas. Évidemment, il y a des pédophiles qui sont dans le côté idylle, immaturité affective. Mais il y a aussi des psychopathes qui, eux, se cachent derrière ça. Voilà. Et qui, en off, sont clairement, Madneff, c'est le cas si vous lisez ses livres, voilà, qui se faisait passer pour un éphébophile, qui adorait les adolescents, soi-disant pubères, et puis en fait, quand vous lisez ses trucs, il adorait faire des voyages dans tel pays, pour sodomiser des gamins de 7 ans, il trouvait ça super, des piments rares, machin... Il disait que les petits enfants, les petits garçons, c'était des piments rares, qu'on pouvait mettre dans son lit. Il y a un passage qui est jamais remis en avant, où il dit clairement « La secte sur Paris, qui nous fournit les enfants, c'est quand même tellement plus pratique que de devoir voyager ou s'en procurer par soi-même. » Et personne n'a jamais relevé ce passage, personne n'est allé l'interroger sur qui sont les gens qui lui fournissaient ses enfants, de quelle secte parle-t-il. Hein, on dit secte, un réseau, quoi, un réseau. Bref. Revenons à nos moutons. Donc, Jean-Claude Krief est donc accusé d'avoir falsifié un procès-verbal et incarcéré dans la même prison que Lotigala. C'est de là-bas qu'il se rétracte une partie de ses accusations en expliquant avoir agi par jalousie amoureuse. Donc vous pensez bien qu'il y a eu pression, menace, et on se demande sous quel... comme la citation le cite plus au-dessus de Proutot, et paiement d'argent certainement par l'intermédiaire de Vergès. Son frère Michel Krief est arrêté pour tentative de chantage à l'égard du ministre Jack Lang. Lui ne se rate pas puisqu'il est retrouvé mort à son domicile, soi-disant suicidé. Seule l'équipe éducative du choral restera mise en cause et toutes les autres personnalités seront innocentées par la justice. Donc toutes les autres... Donc 340 sur 343. On est bien d'accord. Au terme des deux procès devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel en 87, Claude Sigala est condamné à 3 ans de prison, dont un avec sursis, pour attentat à la pudeur sans violence sur mineur de moins de 15 ans. Vous avez bien entendu. 3 ans, donc 2 ans de prison ferme, dont un avec sursis. Aujourd'hui, avec une peine comme ça, vous n'allez même pas physiquement en prison. Son épouse et le médecin psychiatre, Alain Capello, sont relaxés. Et 3 autres éducateurs du choral sont condamnés à 3 ans, dont 1 avec sursis. Donc ça fait, je recompte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, désolé, non. Sur 343, il y a donc 337 innocentés. Enfin, ou acquittés, on va dire, comme à outro. On n'a pas suffisamment, soi-disant, on n'a pas assez d'éléments pour les inculper. Un dernier animateur est condamné à 18 mois de prison ferme, donc non, 336. Interrogé par Le Monde Libertaire sur sa condamnation, Claude Cigala reprend son système de défense et ne fait finalement pas mystère de ses méthodes éducatives. Je cite. Pour moi, c'était clair qu'il fallait différencier deux choses, ce qui était de la pédophilie et des pédophiles, de ce qui était des lieux de vie et de leurs pratiques. Cela a été refusé par le parquet, si cela avait été accepté, il est évident qu'il n'aurait pas pu nous condamner. Cet amalgame a permis de nous enfermer dans une histoire de type perversion sexuelle pour éliminer le côté expérimental, innovateur de nos tentatives. Effectivement, si nous sommes catalogués pédophiles, il devient inadmissible de nous laisser accueillir des enfants en difficulté. Et pour l'opinion publique, ça a été le procès de la pédophilie. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Dans la pédophilie, tout n'est pas à mettre dans la sombre histoire perverse. Il faudrait y réfléchir et faire un débat de fond. Fin de citation. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais avec Duguay. On met en avant des choses gentilles, consentantes, tout va bien, en oubliant évidemment en permanence qu'un mineur, la définition d'un mineur, c'est justement qu'il ne peut pas consentir, sinon c'est un majeur. Vous voyez. Et eux jouent là-dessus, en disant, bah, vous voyez, si l'enfant consent, bah, c'est qu'en fait il est majeur. Donc en fait, il faut descendre l'âge de la majorité. Vous voyez. Et on va avoir des lobbies pédophiles comme ça en Angleterre qui demandaient la liberté sexuelle à 4 ans. Ben oui, puisque si ça lui fait pas de mal, c'est ça le raisonnement. Si ça lui fait pas de mal, si quand on lui questionne, elle dit non, finalement, c'est pas trop mal, etc., ben ça veut dire qu'elle peut consentir, ça veut dire qu'en fait, c'est le droit d'enfant de se faire baiser. Magnifique. Et donc, on met l'âge à la partir où il peut consentir. Voilà. Et ça, c'est des arguments qu'on entend vraiment de part et d'autre dans tous les camps. Qui à nous font saigner les oreilles à chaque fois, c'est-à-dire ah non, il faut pas mettre d'âge systématique, on a re-eu la même chose avec la dernière loi où quand même on a réussi à aboutir à garder le seuil de 15 ans automatique, mais en disant ah mais c'est, vous voyez c'est le côté c'est la maturité physique qui compte, hein, si elle a ses règles à 8 ans, et ben c'est qu'elle peut faire des enfants. Je sais pas si vous entendez ce genre d'argument, c'est hallucinant. Évidemment que non. Évidemment que ce n'est pas la maturité physique qui détermine le consentement et le fait qu'on puisse avoir des relations sexuelles. C'est évidemment la maturité mentale. Hein, je vois pas le rapport. C'est pas parce qu'on a un taux d'hormones plus élevé ou qu'on est précoce qu'on peut avoir ou même qu'on pourrait tomber enceinte que ça va pas faire des traumatismes psychologiques pour le reste de sa vie si on a des relations sexuelles trop tôt. C'est évident, mais ça mérite d'être dit quand même. Enfin, nous, ça nous fait halluciner. Et ça, on l'entend en 2021, hein, dans des camps soi-disant dissidents. Hein. Allez, revenons à nos moutons. En 95, Claude Cigala aura les honneurs du Festival de Cannes en sortant son film sur l'affaire du Corral, dont le titre, visiblement Je vous aime, reprend le titre de l'un de ses livres sortis en 79. Je sais pas si vous imaginez. 13 ans plus tard. En plus de signer le scénario, Claude Cigala y joue son propre rôle dans un plaidoyer pour les lieux de vie alternatifs reprenant la trame de l'affaire du Corral. Le volet judiciaire y est bien évidemment présenté sous la forme d'une dénonciation malveillante qui n'a pour autre effet que de mettre à mal la guérison des malades. Une bien jolie conclusion artistique pour cette affaire et un film salué dans un grand moment d'émotion par la critique. J'y bien, hein, les honneurs du Festival de Cannes, 13 ans plus tard, 95. Donc je passe sur les dernières palmes d'or. On essaie de pire en pire et on voit que de toute façon le Festival de Cannes n'est qu'une propagande permanente pour la bien-pensance. Continuons. Mais le Corral n'en a pas tout à fait fini avec la justice et l'affaire ressort lors de la découverte du réseau Zandvoort. Le réseau Zandvoort, dont je vous renvoie au podcast consacré principalement donc à ce réseau, avait à sa tête Gerrit Ulrich, un Allemand qui avait constitué une gigantesque fichier une gigantesque base de données de fichiers de photos pédoporno dans la ville de Zandvoort, qui est la cité balnéaire de Amsterdam aux Pays-Bas, terre d'accueil bienveillante des pédophiles. Je vous en ai déjà parlé avec l'association Martinsch. Les photos circulaient à travers de plus petits réseaux disséminés en Europe, aux États-Unis et en Russie. C'est une association belge, donc Morkoven Vergroup, et Marcel Verblosem, qui va découvrir l'existence de ce réseau et envoyer aux autorités de plusieurs pays d'Europe des copies des fameux CD-ROM pour retrouver les responsables locaux et identifier les victimes. En France, l'enquête démarre en 2000. 80 enfants sont reconnus, et Morkoven affirme à la justice française que la photo numéro 9 du fichier Zandvoort est identique à une photo issue du dossier Coral, que Jean-Claude Krief avait fourni, montrant deux adultes s'en prenant à des enfants. Jean-Claude Krief affirmait reconnaître sur la photo un magistrat français. Cette photo se trouvait alors aux mains de la police belge, qui mettra 2 ans à la transmettre aux autorités françaises. En vain, puisque l'inspecteur Georges Zico de la police belge affirmera de manière péremptoire que la personne sur la photo est un maquereau de Charleroi. Ce même inspecteur est célèbre pour avoir mis en cause dans l'affaire de Marc Dutroux et est largement soupçonné d'avoir protégé le criminel. On retrouve également dans l'affaire Zandvoort Bernard à la Petite, qui fut mis en cause dans l'affaire du Coral et à une époque où il était un éditeur spécialisé dans les revues pédopornographiques comme Backside ou Beach Boys. Bernard à la Petite, qui est un réalisateur de films pédopornographiques, qui a été revu également dans l'affaire du réseau Fabra Alcacer, je vous renvoie en Espagne, je vous renvoie à ce podcast consacré à cela, et également qu'on a retrouvé dans l'affaire Jerem Star, plus récente, où on s'est rendu compte que cette personne a fait un film avec un monsieur qui s'appelle le Cyril Legan, qui était un des grands ponts du lobby LGBT à Paris, et ils ont fait un film où il y a des amours adolescentes avec des adultes, et avec ce monsieur Bernard à la Petite qui a des casseroles, mais longs comme le bras. Il a été également présent dans d'autres réseaux au niveau de la Nièvre, réseau notamment Toro Bravo. C'est hallucinant. En 2000, à la Petite purge une peine pour diffusion de matériel pédopornographique et affirmera reconnaître des clichés sur le CD-ROM. Jacques Duguay est lui aussi en 2000 rattrapé une énième fois par la justice pour des abus sur mineurs et affirmera reconnaître 5 de ses victimes dans le fichier. La justice ordonne cependant un non-lieu en 2003, anéantissant du même coup toutes les identifications et les dernières résurgences du Coral. Restent des photos de victimes qui, identifiées, pourraient porter plainte et éventuellement relancer l'affaire. Donc c'est là que vous voyez qu'il y a beaucoup de réseaux qui sont liés. Et ce réseau Zandvoort, à l'époque où c'était pas encore vraiment informatisé, c'était vraiment la compilation d'énormément de matériel pédopornographique qui existait en argentique, qui avait été numérisé. D'accord ? Et on recoupait plein de réseaux là-dedans. Et donc, effectivement, quand la police arrive et dit « Mais non, c'est pas vos enfants », les parents qui reconnaissent leurs enfants sur les photos et on leur dit « Non, non, c'est pas vos enfants, c'est des sosies, c'est un portugais. » Les parents qui vont au Portugal, qui demandent à la police, c'est pas du tout un enfant portugais, c'est juste des gros mensonges du commissaire. C'est hallucinant. Et là c'est la même chose, hein, évidemment. Où on va dire... Non, non, c'est pas le magistrat Jean-Pierre Rosenzweig de Bobigny. Non, non, c'est un maquereau belge. Ah oui, bon, mais si vous creusez, mais non, il n'y a pas d'identification, il n'y a pas de maquereau belge, il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout. Tout ça, c'est à l'époque où on pouvait faire n'importe quoi et ça passait. Plus c'est gros, plus ça passait. Je dis pas qu'aujourd'hui, c'est différent. Continuons. Retour sur quelques affaires de politiciens pédophiles. Le Coral. Cette affaire explose en 82, quand le juge Michel Sazman donc, est chargé de mener une instruction suite à la plainte de parents ou d'une voisine de Coral selon les versions, et aux déclarations d'un certain donc Jean-Claude Krief. Donc, le jour de la perquisition au Coral, le 13 octobre 82, les responsables avaient été prévenus de la descente de la police. Alors on peut ajouter également parmi les gens qui avaient été cités dans cette affaire, il y avait aussi le fils du ministre Robert Boulin, qui a été soi-disant suicidé, et qui avait signé un manifeste en faveur des pédophiles renvoyés au tribunal, et dirigeait donc une association qui s'appelait à l'époque SOS Enfants, qui envoyait des enfants au Coral. Également, on peut citer que Krief a cité également Léonide Kamenev, le tristement célèbre fondateur de l'école en bateau, qui a fini par être condamné 20 ans plus tard. Donc je vous renvoie au podcast consacré plus particulièrement à l'école en bateau. Alors si on veut s'apesantir deux secondes sur le profil de Jean-Claude Krief, c'était des gens qui effectivement étaient pas très éduqués, qui avaient un parcours donc de DAS, qui avaient été eux-mêmes abusés dans leur enfance, qui avaient réussi à rentrer au Coral dans l'intention de le dénoncer, mais qui avaient aussi fait de la falsification de chèques, et alors soi-disant qui auraient falsifié un procès-verbal, mais sont des gens qui, limite, ne savent ni lire ni écrire. Et ils paraissent bien incapables de monter toute une machination pour arriver à faire passer un faux procès-verbal de manière crédible, et en essayant de le faire passer aux journalistes. On peut citer à un moment donné un extrait du 84 du journal Le Crapouillot, je cite « D'autre part, Jean-Claude Krief ne savait absolument pas ce que contenait ce fameux procès-verbal. En effet, il pensait mettre en cause un simple attaché ministériel, alors que c'est un ministre dont il s'agissait, et pas des moindres. Comment imaginer que le dénonciateur ait pu confondre un obscur attaché de cabinet et un ministre qui se répand complaisamment dans tous les médias ? Plus important encore, tous les journalistes qui ont eu l'occasion de rencontrer Krief sont convaincus qu'il était matériellement et intellectuellement hors de sa portée de réaliser un faux aussi vrai. N'écrivant qu'avec des difficultés extrêmes, il était tout à fait incapable d'utiliser une machine à écrire. Fin de citation. À la police, Krief a déclaré qu'il avait en fait cherché à s'infiltrer dans le milieu pédophile qui le révulsait. Je cite « Je passais donc les fêtes de fin d'année au Corral et j'ai découvert que tout le monde était pédophile, comme l'avait laissé entendre le bouquin de Cigala, et que baiser des gamins n'était pas du tout un tabou chez eux. Ce que j'y découvris par ailleurs, c'est que bon nombre de personnalités notoires s'y rendaient régulièrement pour y assouvir leurs instincts sexuels, et ce, bien entendu, avec les petits gamins démunis, autant de familles que de paroles, ne pouvant pas témoigner. J'appris d'autre part qu'il existait 34 autres communautés de ce style, toute association régie par la loi 1901 et regroupée en fédération s'intitulant donc le collectif Réseau Alternatif, et qui a pour président Claude Cigala, une sorte de fédération de lieux de vie du même style, a donc expliqué Krief lors d'une audition. Et donc il a donné donc toute une liste de notables parisiens, dont un bon paquet ont carrément revendiqué d'avoir eu des rapports sexuels avec des mineurs. À l'époque, c'était côté militantiste, hein, c'est un peu comme les trans aujourd'hui, quoi, attention. Hein. Et qui ont été condamnés depuis, et qui ont plusieurs cadavres du même genre dans leur placard. C'était une sorte de fierté, d'alternative, dont on était contre le système, contre la norme, etc. Krief a en effet raconté qu'il a vu défiler au Corral de nombreux pédophiles, donc plutôt proches des socialistes. Il a assisté à des partouzes, a trouvé des contenus pédopornos, que la police aura retrouvé dans sa voiture, selon une version des faits, dont une photo sur laquelle on voit un homme qui ressemble beaucoup donc, au fameux magistrat dont je vais passer parler tout à l'heure. On peut citer les propos d'une personne qui s'appelle Roger Hollande, qui était à l'époque élu du Front National, qui donc, à la radio, a dit clairement les faits, donc c'est-à-dire qu'un enfant avait été retrouvé mort, sodomisé, la tête noyée et la tête dans un seau de merde. Donc là, il n'a pas été arrêté à la sortie, ni même avant ou après, où personne n'a jamais remis en question ses dires. Donc au niveau des faits, c'était en 77, alors que deux enfants, ou un enfant et un stagiaire, selon les sources, avaient été laissés seuls au Corral pendant que les éducateurs étaient partis avec les autres enfants, le plus jeune, âgé de 7 ans, a été retrouvé mort, la tête dans un seau d'eau. Son autopsie avait montré qu'il avait été sodomisé. Et donc l'autre mineur, Jean-Pierre L., de 17 ans, a été jugé coupable, mais estimé irresponsable et envoyé en psychiatrie. Il est ensuite revenu au Corral avec l'accord de Cigala, puis il aurait disparu peu avant les premières arrestations. Personne n'a été accusé d'avoir manqué aux règles élémentaires de sécurité à la suite de ce meurtre. Certains pensent que ce lieu en fait servait, comme on l'a vu dans l'affaire Epstein ou dans d'autres affaires, en fait à faire chanter les gens. C'est-à-dire que des photos y étaient prises quand il y avait des actes, ça permettait de les mouiller, éventuellement de les faire chanter. Tous les gens qui y allaient n'étaient pas forcément au courant de ce qui s'y passait, une bonne partie certainement, mais pas forcément. Et ainsi, on peut penser que tous ceux qui se sont rendus à des soirées au Corral sont plus ou moins coincés, ou en tout cas soupçonnés, même s'ils n'ont pas, entre guillemets, consommé des enfants. Et c'est quelque chose d'assez classique, hein, de savoir que chacun va essayer de compiler comme ça des dossiers en off sur les déviances des uns et des autres qui sont bien placés en politique, pour arriver à se garantir une impunité et à faire chanter les autres pour pouvoir avancer. Et ils menacent de balancer tout le monde si eux-mêmes tombent. En gros, tout le monde se tient par la barbichette. Donc la question, c'est qui était derrière ce réseau? Qui a utilisé le Corral pour coincer ses petits copains? Etc. D'un autre côté, on a aussi des parents d'enfants ayant séjourné au Corral qui continuent à nier qu'il s'y soit passé quoi que ce soit. Certains avaient même créé un comité de soutien pour que les trois qui ont été condamnés, dont l'un avait pourtant avoué, et beaucoup ont pris la défense de Cigala et du Corral. Donc là, de deux choses l'une, soit ces gens, il y a un petit côté syndrome de Stockholm, et puis effectivement, Cigala était quelqu'un de très charismatique qui emballait les gens, et voilà, et comme d'habitude, c'était l'époque, et ces gens-là nient. Ou alors, tout simplement, c'était des gens qui en étaient de ce réseau et qui ont fait exprès de mettre leurs enfants dans ces lieux-là. On va citer des PV de Cigala, je cite. Caresse, point d'interrogation, sexualité, point d'interrogation, n'est-ce pas la moindre des choses? Fin de citation. Et Cigala a parfaitement raison de dire que l'habituelle réserve des spécialistes d'enfants est un viol. S'il fallait protéger les enfants, ce n'est pas contre l'amour, mais contre le manque d'amour qu'il faudrait s'élever. Le non-désir, le refus de tendresse font sur cette planète autant que le mal de viol. Là, j'ai toujours la citation. Et pourtant, c'est vrai que le viol est une torture inqualifiable. Alors bien sûr, le policier qui s'emmeille en tout cochon clame « Où sont vos limites ?» Et si Gala ne joue pas au plus malin, il répond humblement et nettement, je cite « Ne vous faites pas d'idées, il y en a. Mais nous ne définissons pas la perversité à partir de la même loi ou du même langage. Nos limites sont celles de chacun et celles du groupe. Lorsque nous sentons et savons la destruction possible d'un d'entre nous et du groupe ou des bêtes et des légumes, nous en discutons. » Fin de citation. Extraordinaire. Donc ça, c'était écrit par une certaine écrivaine Catherine Baker dans le livre « Insoumission à l'école obligatoire ». Par contre, plusieurs enfants ont parlé, mais leurs témoignages n'ont pas pu être utilisés, probablement parce que la plupart avaient des problèmes psychologiques. Ils étaient autistes, justement, comme c'est bien pratique. Et pour le grand public, donc l'affaire du choral s'est limitée à la question de savoir si tripoter des gamins dans un lieu de vie dont on est responsable est un crime ou de la tendresse, puis c'est ce que revendiquaient les intéressés. Et en fait, le débat médiatique en 1982, ça a été ça. En réalité, si on parle encore de cette affaire aujourd'hui dans les milieux antipédos, c'est parce qu'on en subit encore les conséquences. En vrai, c'est presque une sorte de premier outro avant l'heure, si vous voulez. Hein. Pas avec le côté acquittement de beaucoup de gens, mais avec le côté plus 68 ans, mais finalement, est-ce que c'est vraiment un crime? Discutons-en autour des cercles philosophiques. Mais bien sûr, le point de vue de l'enfant, on n'en parle jamais. L'enfant est toujours chosifié dans ces moments-là. On ne s'intéresse pas de savoir si l'enfant... alors, on a des adultes qui parlent en permanence à la place des enfants, en disant « ils aiment ça, donc il n'y a pas de problème, donc il faut changer la norme, donc en fait c'est un problème d'adultes, c'est les adultes qui ne voient pas les choses. » Mais en fait, on ne demande jamais directement aux enfants, qui diraient certainement ce que les adultes n'ont pas envie d'entendre, c'est-à-dire que ça les détruit. Ce qui est le cas dans quasiment 100% des cas. Donc l'omerta